L'entraînement pour vivre une vie stratégique vous présente la série « Surmonter les blessures de la vie et découvrir la joie de vivre une vie stratégique » par Dennis Peacock, traduction Meya Cortet. Le septième principe s'intitule « Il faut un coach pour devenir un bon joueur ». Autrement dit, je peux être instruit par ceux que Dieu met à mes côtés. J'ai besoin des autres. Ouvrons notre Bible dans Éphésiens 4 et lisons ensemble les versets 8 à 16. Comme le déclare l'Écriture, quand il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers avec lui. Il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au plus haut des cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs ou enseignants. Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien, pour faire progresser le corps de Christ dans la foi. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Alors nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues et poussés ça et là par n'importe quel vent d'enseignement répandu par des hommes trompeurs, qui entraînent les autres dans l'erreur par les ruses qu'ils inventent. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout avec le Christ, vers le Christ qui est la tête. Et Hébreux 13, 7 dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Regardez la fin de leur marche sur la terre et imitez leur foi. » Oui, je peux. Nous pouvons être instruits par ceux que Dieu met à nos côtés. L'engagement que je prends samedi est le suivant. Père, j'accepte l'instruction de ceux que tu mets à mes côtés, pour me protéger, m'instruire, m'exhorter et me stimuler selon les Saintes Écritures. Pourquoi cette vérité doit-elle être acceptée et pratiquée par chacun de nous? Parce que si nous n'acceptons et ne reconnaissons pas le fait d'avoir besoin de coach, nous ne serons pas capables de comprendre la grâce médiatrice de Dieu dans le corps de Christ. Nous ne serons pas capables d'atteindre le niveau d'excellence que Dieu veut nous accorder. Il veut nous former de manière que nous soyons excellents. Comment pouvons-nous pratiquer ce principe jour après jour? 1. En recherchant régulièrement des coachs que Dieu nous donne, qui sont assez proches de nous, à qui nous donnons le droit de nous demander des comptes, selon la parole de Dieu. 2. En demandant à Dieu qu'il nous enseigne et nous entraîne par ces personnes, entre parenthèses, sans que nous nous laissions impressionner par leur position ou devenir dépendants d'eux. En évitant que nous ayons des attentes trop grandes ou une fausse attitude par rapport à eux. 3. En prenant note, dans un cahier, des progrès que nous faisons et en indiquant ceux que nous devons encore faire. 4. En étudiant la vie, les dons, les connaissances, la personnalité d'enfants de Dieu que Dieu a appelés à être nos modèles, même s'ils sont appelés à être modèles dans un seul domaine de notre vie. Mon principe du samedi est donc « Je peux et je veux être instruit par ceux que Dieu met à nos côtés, à mes côtés. » L'engagement que je prends est le suivant. J'accepte l'instruction de ceux que Dieu met à mes côtés, pour me protéger, m'instruire, m'exhorter et me stimuler selon les Saintes Écritures. Pourquoi devons-nous avoir des coachs dans notre vie? Tous les grands sportifs vous diront qu'ils ont eu un coach important ou même des coachs importants à des moments précis de leur vie. Ceci est une nécessité. Il n'y a pas de grand artiste, de grand sportif qui n'ait eu un bon coach à un moment ou un autre de sa vie. Si vous voulez jouer à un niveau élevé dans votre vie, vous avez besoin d'un coach qui vous montre comment jouer à ce niveau-là. Un vrai coach nous inspire, nous instruit, nous donne la connaissance et la capacité d'atteindre le but que nous ne pourrions pas atteindre par nous-mêmes. Un vrai coach aide en quelque sorte Dieu. Il a le cœur de Dieu pour nous. Il a une stratégie pour nous. Sous l'autorité de Dieu, il va nous amener là où Dieu veut nous amener. Le niveau de nos capacités dépend du niveau de notre ou de nos coachs. Nous parlons comme si nous jouions au niveau de la Ligue nationale. Je me souviens du jour où j'ai compris cela. Je n'étais pas encore croyant. Je travaillais dans un salon de billard. J'avais un excellent ami qui était un excellent joueur de billard. Celui-ci avait l'habitude de jouer pour de l'argent. Il gagnait ainsi pas mal d'argent. Son nom était Lionel. Un jour, je lui dis, « Jusqu'à quel point joues-tu, t'impliques-tu dans le jeu, Lionel ?» Il me répondit, « Je suis un joueur de niveau B. » J'étais choqué, parce qu'il me semblait tellement bon. « Pourquoi te considères-tu comme un joueur de Ligue B ?» lui dis-je. « Parce que quand j'ai appris à jouer, je n'ai jamais eu l'occasion de voir un joueur de niveau A. » Ça, c'est très très important. Sa remarque m'a vivement impressionné. Combien d'entre vous se sont déjà sentis vraiment excellents dans un domaine jusqu'au moment où ils ont vu une autre personne qui jouait mieux qu'eux, un expert? À ce moment-là, tu te dis « Oh non, je croyais que je savais ce que je faisais, mais maintenant je sais que je ne sais pas. » Comment devenir un joueur de niveau A? En ayant des coachs de niveau A. Beaucoup de films ont été tournés sur ce thème. Je me souviens des chariots de feu, d'un coureur en particulier. Il était juif, n'était pas du tout un coureur excellent, jusqu'au jour où il a eu un bon coach. Le coach l'a entraîné jusqu'à ce qu'il devienne excellent, jusqu'au point où il a gagné les Jeux Olympiques. Ceci s'est vraiment passé. Avez-vous vu le film Rocky? Sinon, vous n'êtes probablement pas encore sauvé. Rocky 1. À voir vos visages, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous le connaissent. Dans ce film donc de Rocky 1, il est en train de s'entraîner pour un grand, grand match de boxe. Un vieil entraîneur s'offre pour le coacher. Rocky le rejette. Vous savez, je ris maintenant, mais quand j'ai vu le film, ça m'a fait pleurer. J'ai compris combien Rocky était insensé de renoncer à l'aide de cet entraîneur. Si l'un ou l'autre d'entre nous a une fois désiré, espéré, arriver au top niveau, il sait de quoi je parle. Chacun, s'il veut atteindre un but élevé, a besoin de coach. Entre parenthèses, combien d'entre vous réagissent comme moi quand ils vont au cinéma? Ils parlent aux acteurs? J'espère que vous le faites doucement. Dans ce film, j'ai dit « Rocky, tu es complètement insensé. Quel fou !» Voyez-vous, cela m'a rappelé une grande souffrance de ma vie. J'ai alors réalisé que j'aurais aimé quelquefois avoir un coach comme ça, mais je n'en ai pas eu. Si vous ne savez pas ou n'avez jamais su consciemment que vous avez besoin d'un coach, alors vous me faites pitié, parce que vous ne pouvez pas jouer naturellement à un niveau excellent ou élevé. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Même Jésus ne s'est pas fait, entre parenthèses ou entre guillemets, tout seul. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes influencé ici en Europe par la culture américaine du self-made man. En tout cas, en Amérique, c'est une malédiction. L'idée que vous pouvez vous faire vous-même. Il nous est dit de Jésus que des anciens l'ont fait. Dans Luc 2, 46-47. Lisons-le ensemble. Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres juifs, les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Et puis, ses parents l'ont fait. Il a vécu avec eux de nombreuses années. Jean-Baptiste l'a fait. Ceci toujours dans le sens où ils ont eu une influence très très importante sur lui. Et bien sûr, Dieu le Père l'a fait. Un self-made man n'aura qu'un fou comme client. Nous disons en Amérique qu'un avocat qui se défend lui-même a un insensé comme client, ou bien que le médecin qui se soigne lui-même a un insensé comme patient. Aucun de nous ne peut se faire lui-même. Nous avons besoin de coach pour grandir. Pourquoi cela? Parce qu'il est impossible d'être objectif par rapport à soi-même, premièrement. Nous sommes tous partiellement aveuglés. Nous ne pouvons pas nous rendre compte nous-mêmes exactement où nous en sommes et qui nous sommes. Deuxièmement, la Bible dit que si un homme peut faire fuir 1000 ennemis, deux hommes ensemble peuvent en faire fuir 10 000. C'est le phénomène de synergie. Là, un et un ne font pas seulement 2, mais 10. Ceci est écrit dans Deutéronome 32:30. C'est un principe de vie que Dieu a créé. Deux personnes peuvent ensemble accomplir bien plus de choses que une et une séparément. Troisièmement, coacher ou discipliner des disciples est un cadeau et un travail. Une onction de Dieu repose sur ce travail, parce que c'est lui qui veut qu'il en soit ainsi. Oui, Dieu le veut ainsi. Les parents ou les enseignants qui sont au milieu de nous ici savent exactement de quoi je parle. Parce que quand Dieu vous donne une responsabilité pour quelqu'un, spirituellement parlant, Dieu vous donne aussi les paroles qui font que la vie de ces gens-là est petit à petit transformée. Combien d'entre vous avez déjà réalisé qu'au moment où vous disiez un mot, une parole, et même pendant que vous la disiez, vous étiez étonné vous-même de dire ce que vous disiez? Vous étiez étonné parce que vous saviez, entre guillemets, que vous ne saviez pas ce que vous veniez de dire. Vous avez pu dire « Merci Seigneur pour cette parole », car vous saviez à ce moment précis que Dieu était en train de servir et de faire du bien à ceux que vous serviez en leur parlant. Dans un instant, nous allons apprendre pourquoi Dieu agit ainsi. Nous lisons dans Éphésiens 4 que Dieu nous a donné des dons pour nous amener à maturité. Il nous a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants, afin de nous donner une révélation de Christ que nous ne pourrions jamais découvrir ou recevoir tout seul. Mon ami Philippe, ou Rolf, au premier rang ici, ne pourrait jamais découvrir par lui-même tout ce que je peux lui enseigner. Ou s'il le pouvait, cela lui prendrait peut-être 30 ans. Ce n'est pas parce qu'il ne serait pas intelligent, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais c'est parce que Dieu nous a ordonné d'apprendre les uns par le moyen des autres. Parce que, en apprenant les uns par le moyen des autres, cela nous oblige à avoir besoin les uns des autres. Quelqu'un qui ne veut pas de coach dit au fond, « Je n'ai besoin de personne. » Il y a une année, je regardais les Jeux Olympiques. Il y avait des interviews de différents champions. Chacun a parlé de son coach. Et chacun de ces sportifs savait qu'il n'aurait jamais pu atteindre le but qu'il avait atteint sans ce coach. Ils ont simplement dit la vérité. Nous avons besoin de coachs pour atteindre un niveau que nous ne pourrions pas atteindre sans eux. Si cela est vrai, pourquoi refusons-nous et rejetons-nous si souvent l'idée d'avoir un coach? Souvenons-nous que Jésus ne nous a jamais ordonné d'aller faire des chrétiens. Qu'a-t-il dit? Allez et faites des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est, entre autres, quelqu'un qui a un coach ou qui suit l'exemple ou les instructions d'un coach. Pourquoi le corps de Christ ne produit-il pas plus de disciples? Voilà une ou deux des raisons. Premièrement, l'orgueil de l'être humain qui refuse de reconnaître qu'il a besoin des autres. Nous ne voulons pas reconnaître que des gens connaissent et savent plus de choses que nous. Un vrai pasteur est effectivement un coach, au moins sur le plan spirituel. Deuxième raison, les référents, les coachs, les disciples eux-mêmes exigent de leurs élèves ou de leurs élèves ou disciples de la discipline. Ceci engendre bien sûr des souffrances de croissance et défie notre indépendance et notre paresse. Pourquoi voudrais-je avoir un coach? Ou pourquoi voudrais-je ne pas avoir de coach? je ne veux pas avoir de coach parce que j'ai peur qu'il me faille travailler trop dur. J'ai peur qu'il remette en question des choses importantes dans ma vie. Bien sûr, souvent, il sait des choses que je ne sais pas. Peut-être que je ne me sentirai pas bien à l'aise quand il mettra ces choses en lumière dans ma vie. J'aimerais pour ma part mieux connaître la communauté chrétienne en Europe. En Amérique, si tu vas avoir une très grande église, n'essaye pas d'entraîner les gens à devenir des disciples. Ne demande à personne de faire des choses difficiles, sinon ils risquent de quitter l'église et d'aller dans une autre église, une où le pasteur ne leur demandera pas de faire des choses si difficiles. Tout cela, encore une fois, simplement parce que nous préférons notre petit confort personnel ou avoir une vie belle, facile, plutôt que de chercher à plaire à Dieu en grandissant. Savez-vous qui peut gagner une course olympique? Souvent, ce sont ceux qui vomissent durant leur entraînement. Jusqu'à un certain niveau, chacun de nous peut être bon. Mais à partir d'un certain moment, on va voir la différence. La différence se remarque au niveau de la quantité de souffrance que tu es prêt, qu'on est prêt à endurer. À quel niveau jouait l'apôtre Paul? Combien d'entre vous pourraient supporter être battus, fouettés, lapidés, jetés en prison? Regardez à quel niveau Paul jouait. Entre parenthèses, je suis impatient de me retrouver face à face avec Paul pour le remercier. La première chose que je vais faire ce jour-là, ce sera de le saluer, comme on salue au service militaire. Et ensuite, je le remercierai, car je dois beaucoup à Paul. Paul a été prêt à jouer à un niveau très, très élevé. Il a payé le prix pour atteindre ce niveau-là. Et grâce à Dieu, il n'a pas rejeté Barnabas, qui l'a coaché durant ce temps-là. Troisièmement, dans l'ignorance, nous nous décourageons tellement au point que nous n'arrivons plus à croire que quelqu'un, qui que ce soit, puisse nous aider. Alors nous tombons dans l'amertume, la pitié de soi et le rejet. Souvenez-vous, nous avons parlé de la petite estime de soi que nous avons. Un des aspects vraiment négatifs d'une estime de soi peu développée, injustement développée, c'est que nous disons « Je ne suis même pas digne que quelqu'un s'occupe de moi. Je ne vais de toute manière jamais réussir quoi que ce soit. » Quel mensonge! Nous disons en jargon américain « Dieu, quand il nous construit, n'édifie pas un fumier. Il fait quelque chose de beau avec chacun de nous. » Quatrièmement, c'est l'ennemi Satan qui veut que vous voyez si négativement. J'ai réalisé que beaucoup de gens sont d'une part découragés et d'autre part, ils n'ont pas l'outil ou les outils nécessaires pour aller de l'avant. Mais les coachs sont justement là pour nous montrer quel outil utiliser, comment l'utiliser et à quel moment l'utiliser dans notre vie. Ils sont aussi là pour casser l'emprise du péché sur nous. Nous avons vu hier avec Rolf combien de prises différentes existent. Il y en a vraiment énormément. Le coach est celui qui va te les enseigner, te les démontrer pour que tu puisses te libérer de l'emprise de l'ennemi toi-même. Un bon coach ne va pas être simplement fier de te montrer ce qu'il sait faire, mais il va vraiment être là pour te montrer comment te défaire toi-même de cette prise. Il y a quelques années, en tant que famille, nous avons pris un temps sabbatique. Avant de partir de la maison, je me trouvais alors au garage en train de préparer la voiture et les bagages. Je savais que nous allions partir pour au moins 3 mois. Et puis, je ne suis pas mécanicien, je n'ai pas de don de mécanicien. J'ai besoin de coach dans ce domaine-là. Quelques-uns, tout à fait naturellement, regardent un moteur et savent quoi faire. Ce n'est pas mon cas. J'ai besoin que quelqu'un me montre ce que je dois faire, et alors je peux le faire. Donc, alors que j'étais en train de faire les bagages et de les installer dans l'auto, l'Esprit-Saint, comme un coach, m'a dit « Prends encore cette série de clés ». Donc une boîte d'outils. Quelques jours plus tard, alors que nous rendions visite à des amis très proches qui nous avaient souvent gâtés, ma femme et moi avons décidé de leur faire un beau cadeau. Jane est allée faire les achats et devinez, elle est revenue avec un carton immense à l'intérieur duquel il y avait une balancelle de jardin. Nous avons ouvert le carton ensemble, sorti toutes les pièces, les vis, les écrous, etc. Et nous avons commencé à lire les instructions qui disaient « Vous avez entre les mains les outils, le marteau et le tournevis et tout ce qu'il vous faudra pour faire ou assembler les différentes pièces de cette balancelle de jardin. » Mais l'assemblage sans un coach a quand même été une autre histoire. Alors que nous étions en train d'assembler les différents tubes métalliques de cette balancelle, je me suis tout à coup souvenu que l'Esprit Saint m'avait dit d'emporter aussi la trousse avec les clés. Si je ne les avais pas eues, je n'aurais jamais pu monter cette balancelle. Entre parenthèses, 6 ans plus tard, je serais probablement encore en train d'essayer. Alors que j'étais en train d'assembler ces différentes pièces, j'ai commencé à louer Dieu. Vraiment, j'ai parlé en langue. Quelques-uns d'entre vous, peut-être, ne parlent en langue que lorsqu'ils sont en église. Moi, ça m'arrive lorsque je suis au cinéma ou en train d'assembler des choses comme cette balancelle. Pourquoi? Parce que j'ai compris à ce moment-là que lorsqu'on a le bon outil et les bonnes instructions, ou quelqu'un qui nous guide, on réussit la tâche entreprise. Combien de chrétiens, combien d'entre nous ici savent vraiment comment utiliser, entre guillemets, le sang de Jésus-Christ? Combien savent utiliser, entre guillemets, le pouvoir du baptême d'eau? Ou le pouvoir du parler en langue? Ou le don d'une parole de sagesse? Ce sont tous des dons et des outils que l'Éternel Dieu nous a donnés. Mais qui nous enseigne, nous apprend à les utiliser? Et il y en a encore d'autres. Lors d'un séminaire, mon épouse et moi avons enseigné 10 règles. On pourrait aussi dire 10 outils pour combattre. Nous avons montré comment utiliser les bons outils afin de ne pas entrer dans un match de destruction. Par exemple, lorsque vous vous disputez avec votre conjoint, comment ne pas entrer dans l'accusation et la destruction? Il y a des principes que vous devez apprendre. Si vous utilisez ces principes, cela vous amène à un niveau de partage, de communion beaucoup plus grand. Pour apprendre ces choses-là, vous avez besoin de coach. N'allez pas chez un docteur. Allez chez quelqu'un qui vit un bon mariage. C'est évident. Je suis étonnée de voir combien de personnes vont chez des gens qui sont docteurs en ceci ou cela. Ils vont chercher des conseils alors que ce docteur-là a peut-être déjà divorcé plusieurs fois. Il a peut-être bien d'autres problèmes, peut-être même qu'il a essayé de se suicider. Pour de nombreux patients, ce qui leur semble important, c'est que les soignants aient un diplôme, suspendu au mur, prouvant qu'ils ont suivi les cours. Ne va pas chercher des conseils chez quelqu'un qui a un diplôme d'abord, mais va chez quelqu'un qui a la vie que tu recherches. Et s'il a un diplôme, tant mieux. Si j'ai besoin d'une capacité en particulier, je ne vais pas aller chez un acteur qui prétend avoir cette qualité, mais je vais aller chez quelqu'un qui a cette capacité, que je le vois vivre. Voici quelques-unes des souffrances, des problèmes que l'on rencontre souvent. Des parents qui ne vous ont pas ou ne vous ont jamais coaché. Cela fait très mal. Cela a occasionné beaucoup de souffrances pour en être là où tu en es maintenant. Bien sûr, on peut se trouver un tas d'excuses. Il est important, au lieu de se trouver des excuses, de prier vraiment en disant « Père, s'il te plaît, peux-tu amener dans ma vie des hommes, des femmes qui vont pouvoir me coacher pour que je puisse aller plus loin ?» Dans notre culture, nous avons un problème. C'est l'égalitarisme. Nous voulons nous assurer que nous sommes tous égaux. Nous n'avons qu'à faire un 100 mètres pour voir qu'il y a un premier et un dernier. Ou bien si nous faisons un concours de violon, il y aura un premier et un dernier. Si nous faisons un examen en physique, il y aura un premier et un dernier. Ou si nous réparons une auto. Ou si quelqu'un au milieu de nous souffrait d'une appendicite. Il y a peut-être quelqu'un qui saurait l'opérer. Mais si je devais l'opérer, il risquerait d'y avoir un mort. Non. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne sommes pas tous pareils. Peux-tu reconnaître que tu n'es pas le meilleur en tout? Moi, je trouve super que nous ne soyons pas tous les mêmes. Cela signifie que nous avons besoin les uns des autres. Ce ne sont que les indépendants, les rebelles, qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont besoin des autres. Troisième problème. Il est difficile de trouver de bonnes figures d'autorité. Dans notre culture, toutes les figures d'autorité sont attaquées. Satan le sait parce que sa loi sait « blesse le berger et les brebis seront dispersées ». Dans Ésaïe 3, les versets 1 à 12, nous voyons le même phénomène se produire. Ce texte décrit une culture dans laquelle il n'y a pas de coach. Certains d'entre vous ont eu des coachs qui les ont blessés. Aujourd'hui, vous refusez ou vous êtes sur vos gardes avant d'accepter encore un enseignement ou un coach. Mon encouragement, mon conseil pour vous, c'est dépasser cela, surmonter cela, lâcher prise, sortez de cette prison. De toute manière, vous allez faire des expériences négatives. Il y a des gens qui vont vous demander de faire des choses qui ne sont ni justes ni bonnes. Cela arrive. Cela signifie que tu dois, que vous devez devenir plus attentif pour savoir qui écouter et à qui il faut obéir. Voyez-vous, beaucoup de gens veulent me donner des conseils, mais je sais pour ma part qui je dois écouter. J'écoute les personnes qui me donnent l'exemple dans leur propre vie. Elles savent de quoi elles parlent. Ceci est une des raisons pour lesquelles ce fut difficile de travailler dans l'Église, car dans l'Église, chacun a un verset biblique, chacun a une prophétie, une opinion. L'Église semble être pleine d'experts. J'aimerais que cela soit vrai. Ma réponse à ces gens est la suivante. Montre-moi ce que tu as et ce que tu vis en réalité. C'est ce que j'aime au niveau de la réalité physique. Lorsque toutes les discussions se sont eues, on voit ce qu'il en est dans la réalité, dans la vie des uns et des autres. C'est à ce niveau-là que Jésus est intervenu. Les pharisiens disaient des paroles de sagesse, mais Jésus était capable de faire ce qu'il disait et ce qu'il enseignait avec sagesse. C'est ce genre de coach que nous recherchons. J'aimerais encore aborder le concept de la grâce médiatrice. Définissons d'abord ce qu'est la grâce médiatrice. Qu'est-ce qu'un médiateur ? C'est un pont entre deux personnes. C'est quelqu'un qui rassemble deux personnes. Qu'est-ce que la grâce? L'hébreu, comme diraient les Européens, est une langue primitive parce qu'elle s'exprime en images plutôt qu'en concepts abstraits. Dans ce langage, les mots sont des images. Cependant, la possibilité de voir les choses de manière claire va toujours être en images. Réalisez-vous cela? Par exemple, si je dis « table », vous voyez l'image d'une table. Si je dis chaise, vous voyez une chaise. Vous ne voyez pas le mot chaise écrit, mais la chaise. Donc vous voyez image. Si je dis porte, vous voyez une porte. J'ai fait cet exercice il y a quelque temps. Quand je disais le mot table, certains voyaient une table à trois pieds avec une nappe belle blanche et un joli vase décoratif. Voilà ce qu'ils voyaient quand je disais table. Par contraste, que voyez-vous quand je dis le mot existentialisme? Que voyez-vous quand je dis le mot aliénation et lorsque je dis le mot désespoir? En hébreu, le mot grâce signifie donc littéralement Dieu tourne son visage vers nous. Le mot grâce est traduit de deux manières complémentaires dans l'Ancien Testament. Il y a la manière poétique que nous retrouvons dans le psaume 67 où il est dit que la face de l'Éternel brille sur toi. Et en prose, c'est le mot « grâce ». C'est de là que vient la bénédiction apostolique qui dit « que la face de l'Éternel brille sur toi ». Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la prière. Il y a prière et prière. Tu peux prier en pensant à tes petites histoires et soudainement, tu réalises que l'Éternel se penche sur toi et te dit « Oh, oh, qu'est-ce que tu fais là ?»« Oh, dis-tu, « excuse-moi, Seigneur, j'étais en train de prier. » Quand tu réalises la présence de Dieu, tu expérimentes sa grâce. Tu viens d'avoir son attention. Quand tu as son attention, veille à ce que tu vas dire devant lui. Combien d'entre nous sont heureux d'avoir un Dieu qui écoute, mais qui n'exauce pas toutes nos prières? Si je prenais par exemple la personne qui est assise là devant nous, qui a un torticolis, si j'allais vers elle et priais plein de feu en disant « Je chasse tous les muscles de toi », j'utiliserais les mauvais mots, n'est-ce pas? Si Dieu exaucait ce genre de prière, nous verrions tout à coup cette personne coincée parce qu'elle ne pourrait plus bouger. Parfois, quand nous entendons certaines prières, nous nous disons, et je suis sûre que je ne suis pas le seul à faire cela, « Oh, oh, s'il te plaît, Seigneur, ne réponds pas à cette prière-là. » Dans le Nouveau Testament, la grâce a deux significations complémentaires. Le premier sens, c'est une faveur imméritée. Nous sommes sauvés par une faveur imméritée de Dieu. La deuxième signification, c'est quand nous crions à Dieu, « Seigneur, fais-moi grâce. » Nous ne demandons donc pas qu'il nous sauve à nouveau quand nous disons « Fais-moi grâce ». Cela signifie autre chose. Voici ce que nous voulons dire. « Esprit Saint, donne-moi la puissance. » Car le Saint-Esprit est le médiateur et la puissance de Dieu. L'Esprit Saint est le pont entre Dieu, le Père et nous. Jésus est, nous l'avons déjà dit, un disciple du Père. Il ne fait que ce que le Père fait. Sommes-nous tous d'accord avec cela? Qui d'entre nous croit que Jésus est réellement intelligent? Il est bien plus intelligent que la moyenne des gens. Lui, le meilleur, regarde attentivement ce que fait le Père. Est-ce que le Père est venu sur terre lui-même? Non, il a envoyé un médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes, c'est Jésus-Christ. Le Père a envoyé sa grâce médiatrice à l'humanité. Parce que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Qu'est-ce que nous devrions nous attendre à le voir faire? Il fait exactement la même chose que le Père fait. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus envoie le Saint-Esprit. Il dit même, il est mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le médiateur qui vient de ma part ne viendra pas. Jésus n'envoie pas seulement le Saint-Esprit qui est envoyé par le Père, par le sacrifice de Jésus-Christ, mais comme nous le voyons dans Éphésiens 4, il envoie aussi ses dons de ministère pour le service. C'est une idée extraordinaire. Il me semble que la plus grande partie du corps de Christ ne comprend pas cela pour le moment. Une des raisons pour lesquelles nous désirons que Jésus revienne bientôt, c'est que nous refusons de recevoir Jésus les uns des autres. Nous le voulons pour nous. Nous sommes tellement égoïstes que nous pensons que lorsque nous allons mourir, nous allons le rencontrer en personne à l'instant même. Nous pensons qu'il va descendre de son trône juste pour moi, juste pour nous. C'est vraiment étonnant que nous puissions penser cela. Il y a des années, j'ai dit à Jésus, « S'il te plaît, Seigneur, ne quitte pas le trône pour venir m'accueillir le jour où je mourrai. Envoie quelqu'un de ta part, parce que je désire que tu restes sur le trône. Si tu veux venir vers moi, ce sera un cadeau, mais ce n'est pas nécessaire parce que je ne suis pas assez important pour ça. Toi, tu es et tu restes sur le trône, là où Dieu t'a demandé de rester. Envoie quelqu'un d'autre m'accueillir ce jour-là, s'il te plaît. » Te prendrais-tu pour quelqu'un de très, très important? Penses-tu être important au point que Jésus lui-même se déplacerait et descendrait de son trône pour t'accueillir? Si tu penses cela, alors tu ne comprends pas la puissance de la grâce médiatrice. Voilà le génie de Dieu. J'aime beaucoup quand il nous révèle un peu de son génie. Pourquoi bâtit-il sur la grâce médiatrice? Parce que sans la grâce médiatrice, nous n'aurions pas besoin les uns des autres. C'est évident. Paul nous dit dans Éphésiens 3, 14 à 18, qu'un jour nous connaîtrons avec tous les saints rassemblés la hauteur, la profondeur, la grandeur, la largeur de l'amour de Dieu. Christ ne dit pas et ne promet pas que tu vas avoir toute cette connaissance à toi tout seul. Mais il dit que ensemble, en tant que corps de Christ, nous aurons cette connaissance. Car tu as des connaissances au sujet de Dieu que je n'ai pas et que je ne recevrai pas. De même, j'ai des connaissances que tu n'as pas et que tu ne recevras pas de la part de Dieu. Souvenons-nous que l'histoire de Dieu, l'histoire de la Bible, commence dans un jardin avec deux personnes. Cependant, elle finit dans une grande ville, la Jérusalem qui vient du ciel sur la terre, c'est-à-dire l'Église qui vient. Dieu nous a mis ensemble, toi et moi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore unis à ce point-là dans le corps de Christ. Cependant, ça viendra. Connaissez-vous le nom de la colle qui nous tient ensemble? C'est le besoin. le besoin impérieux que nous avons les uns des autres. Si Jésus me donnait tout ce que je désire directement, je n'aurais pas besoin de toi. Et si Jésus te donnait tout ce dont tu as besoin directement, pourquoi aurais-tu besoin de moi? Est-ce que tu peux me le dire? Mais lui, il construit par le moyen de la grâce médiatrice. Ceci signifie que nous avons besoin les uns des autres. Combien d'entre vous se battent contre l'idée qu'on a besoin les uns des autres? Tu veux tout faire toi-même, tu veux grandir tout seul, ne rien devoir à personne, tu veux être indépendant, tu veux être isolé, tu as peur d'être blessé, tu as peur que quelqu'un te mette une charge sur les épaules ou que quelqu'un abuse de toi. Allez, grandis! Nous avons tous besoin les uns des autres. Et nous avons besoin de coachs. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui peuvent nous donner l'exemple et nous enseigner. Permets-moi de te dire ceci. Tu n'auras pas besoin d'un coach aussi longtemps que tu ne voudras pas aller plus loin et dépasser le stade actuel. Si tu es heureux d'être là où tu en es, si tu t'en contentes, tu n'as besoin de personne. Des gens me disent, est-ce que j'ai besoin d'une autorité spirituelle dans ma vie? Je leur dis, jusqu'où veux-tu aller dans ta vie? S'ils me disent, je veux juste vivre une bonne vie, être sauvé, aller au ciel. Alors je leur réponds, tu n'as pas besoin de coach. Tu as l'amour de Jésus, tu as le sang de Jésus-Christ et l'amour de Dieu. Ça te suffit. Tu n'as pas vraiment besoin d'autorité à qui rendre des comptes aussi longtemps que tu ne vis pas une situation dans laquelle tu en as besoin. Si tu veux apprendre à danser, as-tu besoin d'un coach? Sûr. Mais si tu veux simplement danser au bal du village, tu n'as pas besoin d'un coach. Cependant, si tu vas aller comme chanteur à l'opéra de New York, alors là, tu vas vraiment avoir besoin d'un coach. D'accord? Je termine avec un exemple. Il y a des années, quand je faisais de l'athlétisme en compétition, il y avait deux hommes qui étaient les meilleurs spécialistes du décathlon. L'un était américain et l'autre chinois. Je faisais moi-même partie de l'équipe du décathlon. Le chinois était le meilleur athlète que j'ai jamais vu. Il était vraiment meilleur que l'américain. Johnson, l'américain, a eu un accident d'automobile qui lui a laissé de profondes blessures au dos. À partir de là, il a été incapable de s'entraîner dans plusieurs disciplines du décathlon. Il avait cependant un excellent coach qui lui disait « Ok, ces différentes disciplines-là, tu ne vas pas pouvoir les faire. Alors travaillons simplement celles que tu peux encore pratiquer. Le javelot, les haltères et encore une autre. » Durant 2 ans, il n'a exercé que ces 3 disciplines à fond. Et petit à petit, son dos s'est renforcé. Il est devenu le meilleur dans ces 3 disciplines. Lors des Jeux Olympiques à Rome en 1960, Johnson, grâce à un écart de points important dans ses 3 disciplines, a battu le Chinois C.K. Yang. Il n'aurait jamais pu atteindre ce but-là sans avoir un excellent coach. Ce coach savait quel était le niveau de maîtrise nécessaire en ces 3 matières pour pouvoir gagner. Donc, aujourd'hui encore, Dieu désire que nous ayons des coachs. Et aujourd'hui encore, je demande à Dieu, s'il te plaît Seigneur, montre-moi quel coach tu as prévu pour moi. J'apprends beaucoup de choses dans les livres que je lis. Je lis par exemple des biographies. J'apprends beaucoup de choses en écoutant des cassettes. J'apprends beaucoup avec ma femme. Elle m'a beaucoup, beaucoup donné. J'apprends aussi avec mes enfants. J'ouvre mes oreilles, toujours encore à la recherche d'un coach dans un domaine ou un autre. Un coach qui sait ce que je ne sais pas, qui connaît ce que je ne connais pas. Par le moyen de qui Dieu m'accorde-t-il sa grâce médiatrice aujourd'hui? Qui Dieu a-t-il mis sur mon chemin dans la vie pour me coacher? Je veux vraiment atteindre le niveau que Dieu a prévu pour moi. Que l'Esprit Saint ouvre nos yeux, qu'il nous aide à enlever tous les obstacles qu'il y a encore dans notre vie actuelle, ces obstacles qui nous empêchent de nous entraîner. Vous ne pourrez jamais atteindre le but que vous devriez atteindre si vous ne comptez que sur vous. Chacun de nous a besoin d'un coach. Le principe que j'entraîne aujourd'hui est le suivant. Je peux être instruit par ceux que Dieu met à mes côtés. Et l'engagement que je prends aujourd'hui, samedi, est le suivant. J'accepte l'instruction de ceux que Dieu met à mes côtés pour me protéger, m'instruire, m'exhorter et me stimuler selon les Saintes Écritures. Amen.